quelque part, on attend tous le bus.
C'est un registre, tu peux y aller quand tu veux.
Tu peux ken partout.
La clé, c'est vous. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast La posture de l'animateur. Aujourd'hui, avec Émilie et Myriam, nous allons parler de la posture et la place de chacun et chacune dans la co-animation. Bonjour Émilie, peux-tu rapidement te présenter ?
Oui, bonjour Myriam. Eh bien, moi je suis facilitatrice et formatrice et j'ai fondé Création de Liens pour accompagner la transition des territoires ruraux. Et donc aujourd'hui, je souhaite partager mon expérience sur la co-animation. Et toi Myriam, est-ce que tu peux rapidement te présenter ?
Alors moi, je suis facilitatrice et j'accompagne des projets d'expérimentation autour de la résilience des territoires, des questions d'implication citoyenne, mais aussi d'innovation en santé médico-sociale. Et je travaille à la fois pour des acteurs publics et privés, qui peuvent être des grands acteurs comme l'État jusqu'à la petite collectivité territoriale. Et je fais partie, avec toi, Émilie, d'une coopérative qui s'appelle Oxalis.
Super. Et donc, dans tes expériences, Myriam, est-ce que tu as rencontré des difficultés particulières de co-animation ?
Alors oui, tout à fait. Il n'y a pas si longtemps que ça, il y a un mois, je dirais environ, je préparais. Donc c'était à la fois un co-design et une facilitation d'un atelier avec une personne avec qui je travaille et avec qui on va dire des manières de faire, de travailler un petit peu différentes. On travaille sur un même projet. Et il y avait déjà un contexte, on va dire, un petit peu difficile puisqu'il y avait des tensions autour de la vision du projet. On s'est retrouvés en co-animation d'un atelier où ce qui m'a mise vraiment en difficulté, c'est de... Alors, juste avant le démarrage de l'atelier, en fait, cette personne-là a modifié le déroulé et demandé des modifications du support vraiment quelques minutes avant l'atelier. Moi, j'organise souvent un temps de filage une heure avant l'atelier. Et me proposer ces modifications dans une communication qui m'a paru violente. Enfin, j'avais le sentiment que c'était, il n'y avait pas d'autre manière de faire en fait. C'était comme elle souhaitait, sa vision était la bonne. Et c'était pas forcément. Enfin, moi, je l'ai vécu comme pas forcément respectueux à l'égard de tout le travail de préparation que j'avais fait. Que j'avais fait et ça m'a mis en tension dès le démarrage, alors que pour moi une bonne pratique, mais on le verra peut-être après, c'est d'être aligné avec son co-animateur au moins sur la vision de l'animation et dans une énergie collective positive avant le démarrage d'un atelier. Donc moi j'ai démarré cet atelier là déjà en tension avec elle et donc ça s'est un peu poursuivi pendant l'atelier où j'étais pas tout à fait en phase avec la manière dont ça se passait. Et des ajustements, on va dire, un peu en live qui étaient faits et qui n'étaient pas cohérents avec ce qu'on avait proposé initialement. Et c'était aussi compliqué parce que, et ça c'était vraiment la première fois que ça m'arrivait et ça m'a choquée, je devrais dire, pendant la pause, le moment où, en général, en co-animation, moi j'ai l'habitude d'échanger, de débriefer, de réfléchir aux améliorations pour la suite. Pendant la pause, je me suis fait littéralement critiquer parce qu'il y a eu un dérapage de timing sur une des séquences, alors que pour moi, c'est plutôt courant et on s'adapte dans un esprit d'équipe. Donc voilà, j'ai senti qu'il y avait... ça m'a mis en tension pendant tout le déroulé. Je suis arrivée à un point où j'avais plus envie de contribuer. Ou à la fin, elle proposait de rajouter des choses qui empiétaient sur des temps collaboratifs où je disais juste oui. Je me sentais plus du tout impliquée dans l'animation. Et ça a vraiment été une expérience assez difficile, qui était pour moi aux antipodes de ce que j'appelle une co-animation réussie. Donc je pense que c'est un bon exemple marquant. Et peut-être pour résumer, pour moi, c'était vraiment lié à un problème de communication. Peut-être un manque de vision commune sur l'objectif de l'atelier et ce qu'on cherchait à faire. Et puis, il y avait aussi, je pense, peut-être une tension interpersonnelle ou en tout cas quelque chose lié à la manière de concevoir l'esprit de co-animation, l'esprit d'équipe dans la co-animation. Voilà pour moi. Je ne sais pas si cette expérience fait écho pour toi à une expérience vécue ou si tu as déjà rencontré d'autres difficultés dans la co-animation, Émilie.
Eh bien, ça fait écho parce que moi, ça me rappelle... Alors, j'ai pas eu des grosses tensions, mais juste des moments où je chantais que j'étais pas très confortable. Et notamment, en fait, quand la personne avec qui je coanime on se connaît pas bien et il y a pas trop de confiance, je sens une forme de stress ou de, j'ai l'impression que qu'elle me regarde avec en se demandant qu'est-ce que je vais faire, est-ce que je vais respecter ce qu'on a dit et tout ça en fait, et je me sens pas bien, je me sens pas à l'aise, et c'est dans ces moments-là en fait où je commence à faire des choses qui ne me conviennent pas, où je m'éclate pas, où je me sens stressée. Donc moi ça me fait écho à des situations où je trouve pas ma place, où parfois je reprends une situation où il y avait une personne avec qui j'animais et qui avait l'habitude d'animer tout seul, et du coup qui a pris beaucoup d'espace sur le déroulé, et moi je petit à petit je me mettais un peu de côté en disant il prend la main, moi je reprends pas de place spécifique, et je me rendais compte que c'était comme si un peu je subissais ou je tournais le dos, et c'était pas du tout ça que j'avais envie de vivre, parce que moi ce que j'avais envie c'est d'être dans l'équivalence et un peu reprendre mon pouvoir d'agir. Et à ce moment-là, je me suis pas sentie hyper confortable. Alors on a pu en débriefer après et puis expliquer un petit peu ce qui s'était passé chez l'un et chez l'autre pour pouvoir améliorer la pratique de la co-animation, surtout si on était amené à le refaire avec cette personne-là, quoi.
C'est vrai que pour rebondir, la question de la confiance et de laisser la place à l'autre dans la co-animation et de faire confiance à ce que l'autre peut apporter de différent, c'est hyper important. Je ne l'ai pas formulé comme ça, mais je pense que c'est un peu la même chose. J'ai senti que ce que je pouvais apporter de différent n'était pas valorisé pour l'autre et qu'il n'y avait pas de confiance, et je pense que c'était mutuel. Merci pour cette... tu veux rebondir ?
Ben non, c'est exactement ça, la confiance mutuelle et puis voir la petite lumière en chacun plutôt que d'avoir peur de ce que l'autre peut apporter.
Tout à fait. Merci pour cet échange. Amis auditeurs et auditrices, restez avec nous. Nous allons ensuite parler des ingrédients clés d'une co-animation réussie. À tout de suite.
Le summum de la coopération,
c'est quand même bien là partout.
Pour toi, Émilie, qu'est-ce qui fait qu'une co-animation est réussie ?
Alors moi, j'ai envie de partager mon expérience d'une co-animation particulièrement réussie avec quelqu'un que j'aime beaucoup. Et en fait, je me demande, mais pourquoi ça réussit en fait ? Et ce qu'on a fait, c'est que déjà, on a appris à se connaître. Donc, pas que dans notre posture de professionnel, mais dans qui on est, dans nos doutes, dans nos peines, dans nos joies. Et vraiment se connaître tel qu'on est et pas juste avec ce qu'on fait. Et c'est aussi, ça passe par aller boire un coup ensemble, ça passe par faire un week-end. Moi je pense que ça y fait beaucoup. Parce qu'après, moi je vois l'autre dans tout ce qu'il est et pas juste dans une part de ce qu'il fait qui me fait peur et que du coup là j'aurais besoin de contrôle. Donc cette partie de bien se connaître et d'échanger vraiment avec le cœur, je pense que c'est essentiel. Et après, ce qu'on a fait aussi, nous, c'est qu'on a toujours un temps de co-construction du processus, du déroulé ensemble, où on a un petit canevas de déroulé, où on regarde, là, ça serait plus toi, là, ça serait plus moi, quel temps on imagine. En gardant, moi, ce que j'aime bien, c'est le cadre souple. C'est toujours cette logique de dire, on a quelque chose qui nous permet d'être rassurés pour savoir où on va, mais avec de la souplesse de pouvoir faire avec ce qui arrive et de pouvoir s'adapter au fur et à mesure. Donc nous, on fait ce petit canevas où on se dit l'un et l'autre font tels outils, prennent telle place, et le jour J, on se refait un petit check juste avant de commencer. Souvent, c'est pas un câlin, mais au moins c'est une mise en lien pour être vraiment connecté, parce que je pense qu'il y a quelque chose qui passe d'autre au niveau de l'énergie. Et depuis qu'on fait ça, c'est hyper cool, quoi. Moi, j'ai trop envie de co-animer parce que c'est simple. Il y en a un qui commence, l'autre qui continue. Quand il y en a un qui a une petite baisse d'énergie, il y a celui qui est à côté qui reprend la main. Et en fait, c'est hyper doux. Alors aussi, homme-femme, je sais pas si ça fait quelque chose, mais ça a créé une énergie vraiment simple et douce. Et du coup, après, dans le, on respecte vraiment ce qu'on s'est dit, vraiment avec cette logique de cadre souple. C'est-à-dire qu'on ne va pas tout changer, mais que s'il y a un ajustement, hop, des fois c'est un regard, C'est un petit truc qui fait que tout de suite on sait que l'autre va prendre ou l'autre va pas prendre parce qu'il est pas dans ce niveau là. Et franchement, moi, avec tous ces ingrédients là que sont le fait de se connaître, la confiance, la connexion, c'est vraiment un exemple de co-animation réussie. Je sais pas si toi, Myriam, tu as aussi des exemples ou des petits ingrédients à partager ?
Oui, carrément. Moi, ce que tu disais, ça faisait pas mal écho. Enfin, je partage tout à fait le fait de devoir bien se connaître, avoir une relation presque de complice, en fait, avant de co-animer, que c'est un ingrédient... Ça, c'est sûr, c'est vraiment le Graal, quoi, pour que ça marche. Sauf que moi, je me rends compte, dans certains cas, et que j'ai pu connaître dernièrement, notamment dans le contexte du Covid, où la majorité de mes animations sont à distance, où des fois, je peux être mobilisée avec des personnes où j'ai pas le temps de créer toute cette relation interpersonnelle. Moi, j'identifie quand même d'autres petits ingrédients, on va dire, qui font que ça marche, même si, en se passant quelque part de toute la richesse de ce que peut apporter la construction d'une relation de confiance interpersonnelle très forte. Et c'est des ingrédients en fait que t'as cités, hein. Je vais peut-être juste les repartager pour te donner ma vision, mais c'est notamment le fait de co-construire le déroulé et notamment de bien définir les rôles en amont, séquence par séquence. Ça, je pense vraiment que c'est clé. Moi, j'organise aussi toujours un temps de filage une heure avant. On rebalaye en fait, ça c'est vraiment surtout à distance, mais ça pourrait se faire aussi en présentiel, les différentes étapes pour bien voir les jonctions d'une étape à l'autre. Et puis il y a des d'autres ingrédients dont on a parlé aussi tout à l'heure, hein, qui sont plus de l'ordre de la posture ou de l'état d'esprit, qui est de se faire confiance, de se dire on est là en tant qu'équipe. En fait, c'est pas, voilà, s'il y a à un moment donné une difficulté, ça se joue au niveau de l'équipe, c'est pas l'un contre l'autre. Il y a la capacité aussi, aussi peut-être un détail aussi à distance, moi que je trouve vite souvent utile pour bien co-animer, c'est d'avoir des espaces de discussion en dehors de l'atelier, donc notamment des espaces virtuels par exemple. Moi, je mets toujours, je crée une conversation sur un chat pour qu'on puisse se partager des éléments pendant l'atelier. Et ça peut être en présentiel, pendant la pause, de se prendre un temps à deux en co-animateur pour bien s'assurer que tout va bien, prévoir des ajustements potentiellement sur la suite de l'atelier. Voilà, moi, quelques ingrédients qui font que c'est réussi. Mais je rebondis vraiment sur ce que tu disais et sur ce qu'on disait tout à l'heure. Je pense que la base de la base, c'est la confiance, en fait.
Donc c'est ça en fait, ce qu'on a abordé au tout début, hein, c'est les difficultés rencontrées, comment trouver sa place, comment faire confiance dans les ressources d'une personne et de l'autre, et de vraiment avoir une espèce de danse entre ces deux personnes qui co-animent. Et puis là, on a partagé ces ingrédients en fait, que sont vraiment se connaître, se reconnaître dans ce qu'on est. Et puis toi, ce qui est intéressant dans ce que tu partages, Myriam, c'est que finalement, on peut avoir une co-animation réussie, que ça soit en présentiel ou à distance, même si à distance, effectivement, parfois c'est un petit peu plus compliqué, mais c'est pas impossible si on a les outils qui nous permettent de rester connectés, de pouvoir faciliter en tout cas l'échange interpersonnel entre les deux personnes qui co-animent.
Mais c'est sûr que c'est mieux en présentiel. Ça, c'est sûr. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, Émilie, sur les ingrédients, ou est-ce qu'on conclut ?
Eh bien, une petite chose, c'est que moi, j'ai trop envie d'inviter à expérimenter la co-animation, et même si c'est pas parfait, eh ben tant pis. Au moins, ça fait un petit pas, et puis ça fait essayer, comme ça, après, vous pourrez nous partager ce qui a réussi ou ce qui n'a pas réussi.
Merci pour ton conseil, Émilie, et merci à toi pour ce partage. Merci à vous, chers auditeurs et auditrices. Et je vous propose de poursuivre l'exploration de la question de la posture de l'animateur avec les deux autres sujets de ce podcast. Le premier, la prise de décision. On explorera la question de l'efficacité versus la prise en compte de l'avis de chacun, où se situe le curseur idéal. Et le deuxième sujet, qui est la posture dominante de l'animateur. Comment fait-on pour l'éviter ? Quel garde-fou ? Quel risque ? À très bientôt, et surtout, n'oubliez pas,
the fun
et fuck the pop.